François Elbron, bonsoir.
Bonsoir Pierre.
Vous êtes professeur associé à Sciences Po et on vous retrouve sur Radio Shalom tous les 15 jours. Alors, depuis notre dernier entretien, beaucoup d'événements ont marqué l'actualité, les attentats terroristes de Nice et de Vienne, les appels au boycott contre la France dans le monde musulman et bien évidemment l'élection à suspense et à rebondissement à la présidence des États-Unis. C'est une incroyable succession d'événements, François Elbron, qui donne d'ailleurs une sensation d'accélération de l'histoire.
Tout à fait, Pierre. Et vous avez, en plus, parce qu'on ne va pas avoir le temps d'en parler aujourd'hui, la flambée de l'épidémie du Covid-19 en Europe comme en France, et puis le reconfinement en France comme dans beaucoup de pays d'Europe. Effectivement, tout ça est arrivé dans les 15 derniers jours. Emporté par le fil de l'actualité, on a tendance à oublier que ce flux est incessant et a tendance à s'accélérer de plus en plus.
Alors, que vous inspirent ces attentats terroristes, ceux de Vienne et de Nice, attentats terroristes islamistes? Quels sont leurs points communs et leurs différences?
Vous avez raison de mentionner ces deux attentats qui sont intervenus en fait dans les 15 derniers jours, donc Nice le 29 octobre et Vienne le 2 novembre. Et une fois de plus, un terroriste islamiste en France a assassiné au couteau, lors de la prière du matin, trois de nos frères chrétiens à la cathédrale Notre-Dame de Nice. Assassiner au couteau trois croyants catholiques au sein d'une église en hurlant « Allah Akbar », voilà ce que le monde entier doit condamner. Le monde musulman doit condamner, et non des desseins exprimant notre liberté de critiquer, et même, comme il est dans une tradition française vieille de plus de deux siècles, de blasphémer. Un sacristain massacré, une mère de famille poignardée et une fidèle décapitée, voici l'insulte à Dieu. Non à l'islamisme, notre ennemi qui tue nos enfants, et ce depuis 17 ans en France, et qui continue parce que quatre jours plus tard, une fusillade éclate devant la grande synagogue de Vienne. Et le tueur, qui se balade dans les rues, comme tout le monde l'a suivi avec horreur, et notamment sur le site de Radio Shalom, tue quatre personnes à la Kalachnikov dans la ville. C'est une attaque qui est revendiquée par Daesh. Et pourtant, là, avec l'Autriche et avec Vienne, pas de laïcité en Autriche, pas de caricature. Par contre, comme en France, une volonté politique de ne plus laisser carte blanche à des imams venus de pays comme la Turquie et de la péninsule arabique qui prêchent la charia dans nos pays. C'est notre combat pour la laïcité en France, pour la tolérance religieuse en Autriche, pour nos valeurs et nos libertés qui sont attaquées. Ces deux attaques du terrorisme islamique nous rappellent que nous, démocrates, laïcs, chrétiens dans leur cathédrale, ou juifs dans leur synagogue et école, je rappellerai l'horrible massacre d'Ozara Torah, de l'école de Zahra Torah de 2012, de mars 2012, qu'on a trop peu évoqué au moment de l'assassinat du professeur Samuel Paty, nous sommes toujours en première ligne contre les totalitarismes criminels. Mais aussi que tous les Européens, quelles que soient nos origines, nos croyances, sommes les cibles, comme vient de tristement nous le rappeler les assassinats de Samuel Paty, de la cathédrale de Nice et des rues de Vienne. Et j'ai lu une citation très lucide d'Alain Finkielkraut récemment, « L'ennemi est là, qui ne nous pardonne pas d'être ce que nous sommes ».
On a beaucoup parlé d'islamo-gauchisme. Vous avez d'ailleurs signé aux côtés d'autres professeurs une pétition contre ces percées à l'université. Mais vous vous inquiétez aussi de l'islamo-fascisme dont on ne parle pas assez. Alors pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ces deux faces d'un même mal en France?
Oui Pierre, avec d'autres universitaires, j'ai signé ce manifeste contre l'islamo-gauchisme et l'indigénisme à l'université qui a été publié par Le Monde et qui après, évidemment, dans les colonnes du Monde, s'est fait attaquer par de nombreux autres universitaires. Cette tribune publiée dans Le Monde avait pour objet de soutenir Jean-Michel Blanquer, qui avait constaté sur Europe 1 que l'islamo-gauchisme, je cite, « fait des ravages à l'université, notamment quand une organisation comme l'UNEF cède à ce type de choses. Il dénonçait une idéologie qui mène au pire, notant que l'assassin qui a tué le professeur Samuel Paty, a été conditionné par des gens qui encouragent cette radicalité intellectuelle. Ce sont les idées qui souvent viennent d'ailleurs, le communautarisme qui sont responsables, le poisson pourri par la tête. » Et au Sénat, le même jour, Jean-Michel Blanquer confirmait qu'il y a des courants islamo-gauchistes très puissants dans les secteurs de l'enseignement supérieur qui commettent des dégâts sur les esprits. Et cela conduit à certains problèmes que vous êtes en train de constater. Et nous, universitaires, on est plus de 300 à ce jour, chercheurs de tous horizons, nous ne pouvons que nous accorder avec ce constat de Jean-Michel Blanquer. Et à titre personnel, en tant que professeur à Sciences Po, même si heureusement, cela ne concerne qu'une infime, très infime minorité d'étudiants et d'enseignants, ces tendances ont tendance aussi à se développer dans une aussi belle école que Sciences Po, mais jusqu'à ce jour, ils restent minoritaires et nous devons les combattre. Mais comme vous l'avez dit dans votre question, quand on tape sur l'islamo-gauchisme, il ne faut pas oublier non plus d'aller taper sur l'islamo-fascisme. Et là, dans l'actualité récente, il y a aussi un exemple très frappant. Deux de très proches conseillers de Marine Le Pen, Axel Lousteau et Frédéric Chatillon, ça a été rappelé dans un très bon article du journal du dimanche il y a 10 jours, proches de Dieudonné, ont été aussi très proches de Abdelhakim Sefrioui. Abdelhakim Sefrioui, rappelez-vous, cet islamiste militant pro-palestinien mis en examen pour complicité d'attentat terroriste dans la décapitation de Samuel Paty. Et on voit une photo, on voit Axel Lousteau, Frédéric Chatillon, Dieudonné et Abdelhakim Sefrioui, tous les quatre ensemble, une très belle brochette. Et en fait, cela n'est pas étonnant. Chatillon a été un intermédiaire entre le Front National, devenu le Rassemblement National, et les dictatures arabes, dont surtout la Syrie. C'est un véritable nazi, que j'avais d'ailleurs dénoncé en 2007 dans La Règle du Jeu, dénoncé aussi devant les tribunaux par Frédéric Aziza, qui avait gagné son procès contre lui, il l'avait traité de néo-nazi. Et donc, pas surprenant non plus, on retrouve la vieille alliance qui date des années 30 entre les frères musulmans et les nazis et fascistes européens. Alliance poursuivie activement pendant la guerre par le grand moufti de Jérusalem, allié d'Hitler. Puis après la guerre, avec la reconversion de dirigeants SS dans la police et les services de propagande égyptiens et syriens. Alors retrouver Chatillon, organisateur de pyjama party pour célébrer la naissance d'Hitler, ancien responsable du GUD, ami intime de Marine Le Pen, qui scandait à Paris comme à Gaza « Intifada », le retrouver de proche de Sefrioui, un islamiste radical violent, maintenant complice d'un attentat terroriste, n'est donc pas surprenant. Il y a donc un ennemi pour nos démocraties, l'islamisme politique, avec ses deux alliés en France, les trop nombreux islamo-gauchistes, dont on a parlé, et les non moins nombreux islamo-fascistes, n'oublions pas ces derniers.
Alors on change de sujet, on va parler de l'élection américaine et de la victoire de Joe Biden à la présidence. Vous souhaitiez évoquer une chose qui vous a frappé entre un vote des juifs américains pour un candidat démocrate à la présidence et les inquiétudes que vous entendez en France et en Israël chez certains de vos amis juifs par rapport à cette victoire.
Tout à fait, je suis frappé par le décalage de ce que j'écoute, j'entends et je lis aux États-Unis, dans le monde juif que je connais bien, et le monde américain que je connais bien. J'ai vécu 4 ans aux États-Unis, j'ai étudié là-bas, j'ai travaillé là-bas, et j'y vais 2 fois par an. Donc je connais bien, et je connais bien les juifs américains. 72% des juifs américains ont voté Joe Biden. C'est le plus haut score jamais réalisé par un candidat à la présidence des États-Unis. Et par ailleurs, en France, comme en Israël, sur les réseaux sociaux, ça se déchaîne contre lui. Alors, je voulais rappeler un certain nombre de choses sur qui est Joe Biden, puisque évidemment, beaucoup de choses, toujours classiques dans une campagne électorale, beaucoup de choses ont été dites sur lui. La première, c'est que pourquoi Joe Biden a décidé soudainement, parce qu'il était effectivement âgé, il n'était effectivement pas en forme, il a effectivement eu des souffrances personnelles terribles, a décidé de se présenter comme candidat à la présidence de la République. Mais il s'est présenté comme candidat à la présidence des États-Unis suite aux manifestations antisémites de Charlottesville, où Trump avait considéré que quand des suprémacistes blancs criaient dans les rues de Charlottesville « Jews will not replace us », les Juifs ne nous remplaceront pas, et que Trump avait dit à ce moment-là qu'il y avait des gens bien des deux côtés lors de ces manifestations, Joe Biden a dit que ce n'était pas possible, on était en train de porter atteinte à l'âme de la nation américaine, à son âme démocratique et tolérante, et que ce n'est pas possible que des suprémacistes blancs puissent être soutenus ainsi par le président des États-Unis. Ça, c'est la raison de son engagement qui est intéressant. Deuxièmement, quand on regarde le programme de Joe Biden, un des points importants, c'est qu'il veut lutter contre l'antisémitisme, ce qui n'est pas du tout été le cas de l'administration Trump. Il veut notamment lutter contre l'antisémitisme, comme on l'a fait en Europe, avec des mesures très sérieuses. Il veut faire passer une loi domestique sur le terrorisme qui, tout en respectant la liberté de parole sacrée aux États-Unis et les libertés civiles encore plus sacrées, va quand même prendre des mesures pour déloger le terrorisme, qu'il soit d'extrême-gauche, islamiste ou d'extrême-droite aux États-Unis, et surtout commencer à poursuivre les crimes de haine sur les réseaux sociaux. Il veut également contrôler la vente d'armes aux États-Unis, qui est un vieux débat et qui fait qu'aux États-Unis, on tue quand même 10 fois plus de gens pour des raisons raciales, haineuses, mais aussi pour des raisons de criminalité, puisque les armes sont en vente libre. Ça, c'est sur sa lutte contre la terreur et la haine. sa lutte pour Israël. On nous décrit Joe Biden, effectivement, il était vice-président d'Obama. Obama n'était pas forcément le plus actif pour Israël, mais Joe Biden est sénateur depuis 1973, il est allé en Israël en 1973, avant la guerre du Kippour. Il a été pendant 20 ans le président de la Commission des affaires étrangères du Sénat américain, qui a toujours soutenu Israël. Il a fait voter, notamment à la fin du mandat d'Obama et de lui, un package de 38 milliards de dollars avec un accord pendant 10 ans sur lequel il allait apporter sa défense et son assistance à Israël. Et c'est le plus gros package militaire accordé dans l'histoire américaine à l'État d'Israël. Enfin, il a toujours condamné le BDS et d'ailleurs, il veut faire interdire le BDS chez lui. Enfin, il est entouré, et je le sais parce que j'en connais un certain nombre, dans son administration, d'un certain nombre de vrais amis d'Israël, très proches d'Israël, qui, j'espère, accéderont aux responsabilités. Donc, il faut à la fois saluer Trump, et je l'ai fait d'ailleurs dans un article récent dans La Règle du Jeu, Trump pour trois choses qu'il a fait à l'égard d'Israël. La première, c'est évidemment de transférer l'ambassade de Jérusalem à Tel Aviv, promis par beaucoup de présidents et jamais réalisé. Merci, président Trump, pour ça. La deuxième, c'est effectivement d'avoir durci le ton avec l'Iran, d'avoir cassé l'accord avec l'Iran et voir maintenant si on ne peut pas renégocier quelque chose de plus intelligent. Et troisièmement, d'avoir signé les accords d'Abraham, effectivement, avec les Émirats unis et avec Bahreïn et bientôt avec le Soudan. Ce sont des percées très importantes, mais qui viennent aussi de ces États arabes qu'il faut saluer. Et évidemment, l'administration démocrate qui devrait être en place à partir de janvier continuera à accélérer sur ces points-là. Donc, on ne devrait être plus modéré, plus tolérant face à cette victoire, à la fois comprendre le vote des juifs américains. J'ai lu des articles horribles en disant les juifs américains trahissent le peuple juif, c'est absolument scandaleux. Eh bien, on devrait être plus rassuré de cette victoire de Joe Biden, qui est effectivement beaucoup plus modéré, beaucoup plus pro-israélien que ce que n'était Obama. En tous les cas, comme toujours, l'histoire nous le dira et nous pourrons encore le commenter dans d'autres rendez-vous.
François Elbron, merci d'avoir été avec nous sur Radio Shalom. Vous qui êtes professeur associé à Sciences Po, bonsoir.
Bonsoir Pierre.